l'idée d'avoir un petit temps dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de lire l'Ancien Testament? Je pense qu'on va plus facilement vers le Nouveau Testament que vers l'Ancien Testament, n'est-ce pas, hein? Et puis, quand on lit souvent l'Ancien Testament, on ne sait pas toujours comment appréhender ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Alors, déjà, hein, sur la composition de l'Ancien Testament, est-ce que vous vous rappelez comment on appelle les cinq premiers livres? Le Pentateuque. Et qu'on y trouve? Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. D'accord? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, on trouve d'autres livres. Hein? Il y en a qui cherchent au début de leur Bible là pour se rappeler rapidement. Non, non, on laisse les Bibles fermées pour l'instant. Hein? On laisse fermées pour l'instant. On ne triche pas. Hein? Ensuite, après le Pentateuque, qu'est-ce qu'on a? Les livres historiques avec Josué. Combien de livres historiques? Douze. C'est ça? Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ça fait bien 12. D'accord? Après les 12 livres historiques, on a Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésias et Cantique des Cantiques. Cinq livres, on appelle ça comment en général? Sagesse, on dit souvent les livres poétiques. Poétiques. Puis après, on arrive à Esther, ensuite après Esther. J'ai dit Cantique des Cantiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ça c'est quoi ça? Les grands prophètes. Et après, on a les petits prophètes. Combien? 12. D'accord? Donc, on a les cinq grands prophètes et les petits prophètes. Donc, on commence avec qui? Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Cinq, Pentateuque, d'accord, 12 historiques, 5 poétiques, 5 grands prophètes, 12 petits prophètes. Au total, on en a combien? Au total? 39. Et le Nouveau Testament? 27. Et au total, dans la Bible? 66. Ah, ça fait du bien de faire ces petites révisions, hein. Il faut quand même connaître nos. Et ce que je vous propose, hein, c'est que l'on puisse, comment dirais-je, étudier, faire un survol des petits prophètes. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle des petits prophètes? Donc qui vont de Osée jusqu'à le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Alors, ce ne sont pas des petits prophètes parce qu'ils sont petits de taille ou parce que, voilà, ils disent des choses pas très intéressantes ou, voilà, pas importantes, pas du tout, hein. C'est simplement par la taille de leur écrit, hein. On les a classés comme les petits prophètes. Parfois, on dit les prophètes mineurs, hein. Les prophètes mineurs comparés à Ésaïe, Jérémie. Daniel, hein, qui sont des grands prophètes, grand volume, on pourrait dire. Mais leur message est tout aussi important. Hein. Ce sont des prophètes mineurs avec des messages majeurs, on pourrait dire, hein, avec de grands messages aussi. Et ce que je vous propose pendant quelque temps, c'est qu'on puisse faire un petit survol. Hein. Ce ne sera pas quelque chose en profondeur. Mais voilà, bon, j'ai jamais fait ça, donc je me dis, c'est bien de le faire pour nous. Pour vous aussi, de lire ces petits prophètes et puis de voir ce que l'on peut tirer comme enseignement. Parce que la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc l'ensemble de l'Écriture est important. Donc aujourd'hui, je vous propose que l'on voit le livre de, non pas Osée, parce qu'il est, il est quand même parmi les petits prophètes, il est quand même plusieurs chapitres. J'en ai choisi un avec peu de chapitres pour commencer, donc Joël, le prophète Joël, hein, qui se souvient, juste sans regarder comme ça, de ce que vous avez déjà lu dans le prophète Joël. Comme ça. Si je vous dis, se souvient de Matthieu, bon, il y a des épisodes de Matthieu qui vous viennent à l'esprit, mais dans le prophète Joël. Est-ce que vous êtes capable juste de citer une phrase du prophète Joël, par exemple? Oui. Voilà, ça c'est un passage qui est repris dans le Nouveau Testament. Hein. D'accord. Mais c'est pas, je dis ça, c'est parce que ce n'est pas toujours évident. Vous voyez, ce n'est pas évident. Il ne nous vient pas non plus à l'esprit rapidement une phrase voilà, qui vous saute hein, forcément à l'esprit. Parce que ce n'est pas des livres que, sur lesquels on reste forcément. Alors Joël, on va prendre Joël. Et ce que j'aurais dû vous dire, c'est de le lire à la maison avant de venir, parce qu'il n'y a que combien de chapitres dans Joël ? Ah, ça dépend comment votre Bible elle est. Moi, j'en ai 3. Hein ? Donc, 3 chapitres. Et on va lire... J'avais presque envie de vous faire lire les 3. Mais bon, c'est pas long, hein, mais on va lire le premier. Le premier, ce soir, et je vous encourage, et il pourra peut-être venir dans le deuxième comme ça, mais je vous encourage vivement à tout lire, hein, pour avoir une idée. Toujours dans un livre, il faut le lire en entier pour avoir une idée de l'ensemble de ce qui est dit. Hein. Donc on va lire le chapitre 1 déjà. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé à votre temps, de votre temps, ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil, les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car l'offrande, les libations ont disparu et la maison de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Ah, quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux ? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même le troupeau de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Voilà pour le premier chapitre, hein, cela donne envie de lire ce qui vient à la suite. Je vous laisse lire, mais ça continue un peu dans le même ton. Et puis ensuite, il y a à partir du verset 12 une espèce d'appel que Joël fait au peuple. Alors, qui était Joël? C'est important parfois quand on lit de poser la question qui est cette personne, d'où elle vient, etc. Qui était Joël? Est-ce que vous savez qui était Joël? C'est le fils de Pétuel. Est-ce que vous savez qui était Pétuel? Non. En fait, on ne sait pratiquement rien de Joël. On ne sait pratiquement rien. Il y a plusieurs hommes dans la Bible qui sont appelés Joël. Hein. Mais celui-ci est spécifié comme étant le fils de Pétuel. Alors Joël, le nom veut dire « l'Éternel est Dieu ». Mais on ne sait pas grand-chose de lui, sinon ce qui est dit ici. Et d'ailleurs, on sait qu'il est fils de Pétuel, je le dis, mais Pétuel lui-même, c'est la seule fois où il est mentionné dans la Bible, dans toute la Bible. Alors c'est difficile de savoir qui était Joël. Bon, deuxième question. Ce qu'on sait, c'est qu'il était néanmoins un prophète et qu'il a prophétisé particulièrement sur Juda et puis Jérusalem. Donc, c'était un prophète qui était plutôt sur Juda. Et chapitre 3, au verset 1, il dit « Car voici, en ce temps, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, donc c'est Dieu qui parle, hein, ici, donc on pense qu'il a surtout exercé son ministère en Juda et qu'il a été particulièrement à Jérusalem. Alors concernant la date de ce livre, la prophétie de Joël, on ne sait pas beaucoup plus non plus parce que ce qui est assez particulier, en général quand vous lisez les prophètes, si vous lisez Osée, hein, par exemple, si vous regardez le petit prophète juste avant, Osée, et regardez le tout premier verset de Osée, il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. » Donc déjà, quand il y a des choses comme ça, au temps de tel roi d'Israël, hop, ça y est, on arrive à caser les choses. Pour Joël, il n'y a aucune mention, il a juste écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. » Point. Et donc, on n'a pas ces affirmations. Puis on n'a pas non plus, parfois, d'événements qui pourraient servir de période chronologique pour fixer un peu la date du livre. Hein. Parfois, il est question de grands tremblements de terre qui a eu lieu à tel... Alors, on sait que ça, c'était vers telle date. Là, il n'y a rien de tel. Même si Joël parle d'une catastrophe, mais on ne sait pas non plus précisément la situer. Voilà, donc ça, c'est un peu particulier à la prophétie de Joël. Quelles sont les circonstances qui amènent la rédaction de... Enfin, ces prophéties de... pourrait dire, de Joël, eh bien, c'est une catastrophe particulièrement destructive. Il en parle, hein? Il dit, écoutez ceci, prêtez l'oreille, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou de temps de vos pères. Et puis au verset 4, il dit, ce qu'a laissé le Le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Donc il parle d'une espèce de catastrophe, pas, on peut dire naturelle, une invasion de sauterelles. Mais il parle de différentes sortes de sauterelles, gazam, la sauterelle, le gélec, et puis le asile, hein. Et certains commentateurs pensent que parfois les sauterelles pourraient symboliser l'invasion d'une armée, mais la plupart pensent que c'est une vraie invasion de sauterelles, plutôt, hein, penche plutôt pour dire que c'est une vraie invasion de sauterelles que Joël décrit ici, et qu'il parle de différents stades même de développement de ces sauterelles qui ont contribué à une grande détresse dans le pays. Et Joël annonce, on pourrait dire, il utilise cette circonstance pour appeler le peuple à la repentance. Alors, il ne cite pas, comme dans d'autres, un péché particulier que le peuple aurait commis. Mais son appel à la repentance permet tout de suite de lier les choses au péché. Parce qu'au chapitre 2, si vous regardez au verset 12, il dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, etc. » Donc, il ne cite pas en particulier un péché qu'ils ont commis, mais néanmoins, il exhorte fortement à la repentance. Et en soulignant quelque chose de particulier, c'est que cette catastrophe, entre guillemets, naturelle, qu'on pourrait dire, hein, qui leur est tombée dessus, il dit que c'est un jugement qui est le présage d'un jugement qui vient encore plus terrible. C'est un peu ce qu'on trouve dans ce livre. Et il nomme cela le jour de l'Éternel. Donc, si vous voulez, souvent on résume le livre de Joël comme cela, le jour de l'Éternel. Parce qu'il dit cela, il utilise combien de fois cette expression? 5 fois. Regardez dans Joël 1, verset 15. Il dit, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc, il annonce un jour qui vient. Il parle d'une catastrophe qui est d'une catastrophe passée qui a fait des ravages, mais en même temps, il parle d'un jour qui vient qui sera terrible. Chapitre 2, verset 1, il dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. » Voilà ce qu'il annonce. Chapitre 2, verset 11, encore. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Verset 31 du chapitre 2. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et puis chapitre 3, verset 14, il dit, car c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Voilà, donc on dit que c'est le prophète qui insiste le plus sur cette notion du jour de l'Éternel, ici. Ce jour qui vient, ce jour qui est proche, ce jour qui est terrible, et où il dit que personne ne pourra, qu'on ne peut pas soutenir. Mais aussi, quand on lit ce prophète, on voit aussi qu'il annonce la disposition de Dieu à envoyer la bénédiction, s'il y a la repentance. Et ça, c'est extrêmement présent aussi dans ce livre. Dans un premier temps, il parle de bénédiction matérielle économique, chapitre 2, regardez au chapitre 2 et au verset 18 par exemple. Chapitre 2, verset 18, « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. » Quelque part, il parle d'un jour terrible qui vient, d'une dévastation qui a eu lieu. Puis là, maintenant, il parle comme si quelque chose a changé, là. On peut penser que c'est quand la repentance vient que les choses sont ainsi. Il dit, « Il est ému de jalousie, il épargne son peuple. » L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Et après, il dit tout un tas de bénédictions, hein, donc jusqu'au verset 27, qui sont des bénédictions, on pourrait dire, matérielles. Hein. Il promet même au verset 25, il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Hein, » toutes ces années de désastre, voilà, je vais les remplacer par la bénédiction. Et puis au verset 28 du chapitre 2, il parle de cette, on pourrait dire, hein, aussi d'une bénédiction spirituelle à venir. Hein. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a cité à la Pentecôte quand il a donné une explication concernant l'effusion de l'esprit sur les apôtres. Il expliquait aux gens, il a dit, non, nous ne sommes pas ivres, mais c'est ici ce qu'a annoncé le prophète. Et il cite ce passage pour dire que l'effusion de l'esprit est un accomplissement de ce qui est annoncé ici. Voilà, donc il annonce, on pourrait dire, que même s'il y a un jour terrible qui vient, Dieu est disposé à pardonner. Il est miséricordieux, il le dit au verset 13 du chapitre 2, « Car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Hein? » Donc en même temps, il dit que Dieu envoie des maux, mais en même temps, il dit qu'il se repent des maux qu'il envoie. C'est-à-dire qu'à travers les maux qu'il envoie, il est néanmoins prêt à faire grâce et à pardonner. Alors, si on veut donner un petit peu un plan du livre, bon, c'est un plan hein, que je propose, c'est pas, on peut trouver mieux, vous pouvez trouver mieux, mais juste en regardant un petit peu la séparation des chapitres, dans les chapitres, on peut dire premièrement, de chapitre 1, verset 1 à 20, j'ai nommé ça l'invasion des sauterelles et son interpellation. L'invasion des sauterelles et son interpellation, pardon. Ensuite, il y a l'annonce de l'invasion d'une armée ennemie. Je pense qu'on voit ça un peu dans le chapitre 2, versets 1 à 11, donc d'un jugement peut-être qui vient aussi, hein, d'une certaine manière. Une promesse après, l'appel à la repentance, chapitre 2, versets 12 à 17. Il y a l'appel à la repentance, un peu ici. Chapitre 2, verset 18 à 27, c'est la promesse d'une bénédiction matérielle. On a dit déjà, promesse d'une bénédiction spirituelle, chapitre 2, verset 28-32. Il parle à un moment donné du jugement des nations, chapitre 3, verset 1 à 17. Et puis, aussi vers la fin de la restauration de Juda. Voilà, la restauration au reste du chapitre de Juda. Alors, ce soir, on veut juste regarder, donc on va faire un survol, on ne va pas rentrer en détail dans chacune de ces choses, hein. Je vais faire un survol sur deux ou trois, peut-être trois, disons, trois études un peu, et puis on va voir après un autre livre. Donc, c'est vraiment un survol lointain, mais quand même tirer quelques leçons, quelques enseignements, voir le rapport que l'on peut avoir avec Christ à travers les prophéties, parce que les prophéties parlent de Christ. Hein. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, qu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs et qu'il n'avait pas compris les choses concernant le Messie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a expliqué. D'accord ? Il a commencé par qui ? Commençons par Moïse. Quand il dit Moïse, il est prophète, non, je pense. Ou il dit Moïse, je ne sais plus. Hein. Et même il avait dit, l'un à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Donc toutes ces choses parlent de Christ, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est à nous de voir comment, quel est le lien qui est fait avec cela. Donc on veut voir un survol et puis en même temps voir comment Christ apparaît à travers ces petits prophètes aussi. Alors, chapitre 1 aujourd'hui, rapidement, chapitre 1, j'ai intitulé ça l'invasion des sauterelles ou Dieu dans les fléaux. L'invasion des sauterelles ou Dieu dans les fléaux. Quand on parle d'invasion d'insectes, à quoi vous pensez-vous tout de suite? De sauterelles surtout. Plaie d'Égypte. Hein, on pense toujours aux plaies d'Égypte. C'est vrai qu'il y a eu une invasion aussi de sauterelles. Mais savez-vous que les invasions de sauterelles, il y en a eu une pas plus tard qu'en juin 2023, en Italie, en Sardaigne. C'est ça? Je pense, ouais. Mais aux États-Unis, ça arrive souvent. Hein. J'ai vu quelque part que dans le Nevada, il y a eu des millions et des millions de sauterelles qui envahissent sur 3 ou 4 jours. Alors, si vous allez sur Internet, regardez ça, tapez invasion de sauterelles. Et c'est impressionnant, hein. On voit des voitures, on voit même pas les vitres, elles sont recouvertes de sauterelles, et c'est horrible. C'est horrible, et les gens disent que, bon, voilà, ils savent que ça va partir dans un certain temps, ils font des choses pour les chasser aussi, mais voilà, et ça dévore tout sur le passage, surtout les cultures, ça dévore tout. Et c'est quand même quelque chose qui est terrible. Et c'est ce qui est arrivé ici à l'époque de Moïse, mais aussi à cette époque où parle Joël. On ne sait pas quand exactement, mais Joël va se servir de cette situation pour parler au peuple. Et donc cette invasion de sauterelles était très destructrice et a frappé vraiment le pays de manière terrible. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle était sans précédent. Regardez comment Joël dit les choses. Au verset 2, il dit « Écoutez ceci, vieillards. » Pourquoi est-ce qu'il interpelle les vieillards? Parce que, voilà, c'est eux qui ont une profondeur de mémoire plus grande que les autres. Et ils peuvent remonter plus loin dans le temps. N'est-ce pas? Vous n'allez pas demander à un bébé de se rappeler ce qui s'est passé. Non, vous voulez demander à celui qui est le plus vieux. Et il dit « Cherchez dans votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez d'un temps où il y a eu quelque chose de pareil? » Et la réponse évidente est non. Hein. C'est ça qu'il dit. Il dit, rien de pareil est-il arrivé à votre temps? Ou au temps de vos pères? C'est-à-dire, rappelez-vous même de ce que vos pères vous ont raconté. Et il dit que c'était quelque chose qui était inédit. Donc il parle, il interpelle les vieillards pour faire sentir, on pourrait dire, le caractère inédit, sans précédent, du drame qu'ils ont vécu. Écoutez ceci, vieillard. On n'a jamais rien vu de pareil. Quand il arrive des catastrophes, souvent, vous écoutez les informations, les gens disent « Ah non, on n'a jamais vu ça ici, ça ne s'est jamais produit de mémoire. » Même mes grands-parents n'ont jamais vu des choses comme cela pour montrer le caractère inédit d'un désastre. Donc, il insiste sur cela, mais aussi, il insiste pour que le souvenir de l'événement soit transmis, parce que regardez ce qu'il dit. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est intéressant ça quand même. Hein? Il ne veut pas que l'événement, aussi tragique soit-il, soit oublié, hein? Effacé des mémoires. Il veut qu'on se souvienne de cette invasion de sauterelles. C'est comme si on dit, voilà, je ne vais pas oublier l'épidémie de Covid qu'on a vécu dans le monde entier, etc. Je vais raconter ça à mes enfants et je vais m'assurer à ce qu'ils le racontent aussi à leurs enfants, que je veux perpétuer le souvenir de cet événement-là. Et c'est ce que fait Joël ici. L'événement ne doit pas être oublié, ce souvenir ne doit être maintenu. Et puis, il parle de l'ampleur du désastre, des versets 4 au verset 13. Il dit « Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec, l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Hazil, l'a dévoré. Voilà, » il dit que rien n'a été épargné. Et ce qu'aurait pu épargner une certaine catégorie d'insectes, une autre, à un autre stade, ne l'a pas laissé passer. De telle sorte que le pays entier a été dévasté. La désolation a été grande. Et je le disais, hein, le verset 4 indique plusieurs stades de développement, c'est ce qu'on pense, d'une même sauterelle, le gazam, la sauterelle, qu'on appelle la sauterelle, si vous regardez les traductions, le gélec et le asile. Par exemple, dans 1 Roi 8, verset 37, il est dit « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle et les sauterelles d'une espèce ou d'une autre. » Quand on parle des sauterelles, souvent dans la Bible, il y a parfois plusieurs types, parfois plusieurs stades même de sauterelles. Hein. Et les versets 5 à 12 donc, font mesurer l'étendue et l'intensité des dégâts. Alors, je vous propose de regarder et de trouver avec moi les termes qui caractérisent le désastre. Quand on regarde du verset 5 au verset 12, qu'est-ce que vous relevez ici? 5, on va dire, oui, c'est ça, même 5 jusqu'à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il souligne là ici qui montre qui fait sentir l'intensité de la dévastation? Qu'est-ce qu'il dit? Juste reprendre ce qu'il dit, hein. Voilà, il dit aux ivrognes, réveillez-vous et pleurez. Il dit votre vin, il n'y a plus de vin, quoi. Il n'y a plus de ce qui vous réjouissait, il n'y en a plus, quoi. Hein. Vous devez pleurer même sur ça, il dit. Hein. Gémissez parce que le moût vous est enlevé de la bouche. Hein. C'est ça qui est arrivé quand ces sauterelles sont venues. Quoi d'autre? Il dit que c'est un peuple comment? Puissant et innombrable. Hein. Les sauterelles, c'est pas 2-3 sauterelles, 10 sauterelles, 100 sauterelles, c'est par millions que ça arrive. Hein. C'est par millions. Okay. Et c'est terrible, terrible. J'ai lu dans un commentaire quelqu'un qui racontait comment il a vécu par une invasion de sauterelles, comment ils avaient fait des trucs, creuser des fossés, mettre le feu pour que les sauterelles qui arrivaient puissent être prises. Il dit, mais les sauterelles passaient à travers cela et continuaient à avancer. Il y avait rien à faire. Rien à faire. Hein, c'est quelque chose de terrible. Ici, il dit, c'est des dents puissantes, innombrables, les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Qu'est-ce qu'il dit encore, ici? Regardez encore. Quand il parle des vignes, des figuiers, des rameaux de vignes qui ont blanchi, quand il parle des champs, du blé qui est dévasté, de quoi il parle, là? De quel domaine, ici? Domaine agricole. Ici, le domaine agricole est dévasté. Verset 9, de quoi il parle? Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Et de quoi il parle au verset 9? Oui, du domaine religieux, du culte. Hein? Le culte même n'existe plus, quoi. On ne peut plus rendre culte, il n'y a plus d'animaux, plus de sacrifices. Il dit les sacrificateurs sont dans le deuil. Le culte même est touché par cette dévastation. C'est ce que ça veut dire. Et puis, verset 11, verset 12, qu'est-ce qu'on peut voir? Le laboureur sont consternés. Il parle des personnes même qui sont dans la désolation la plus profonde. Verset 12 et au verset 13, il dit, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Depuis l'ivrogne jusqu'au sacrificateur, tout le monde est touché par ce qui s'est passé ici. Voilà ce que fait Joël. Alors pourquoi est-ce que Joël dit tout ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement dit, il y a eu une invasion de sauterelles et puis tout a été dévasté. Okay? Il veut faire sentir toute la douleur qu'a provoqué cette invasion de sauterelles. Tout le désastre, tout ce qui a été touché, tous les domaines, le cœur de l'homme au plus profond a été touché, ses sentiments, depuis celui qui passe sa vie dans l'ivrognerie jusqu'au sacrificateur qui officie dans le temple, tout le monde est touché. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que je crois que ce que l'on peut avoir tendance à faire quand il y a une catastrophe qui arrive, c'est peut-être de dire, bon, après tout, c'est pas grave, ce n'est que matériel. Parfois on dit ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est que matériel. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désastres, mais bon, ouf, ce n'est que matériel. Et on fait comme si, c'est comme si on disait, même pas mal. Hein? Ah, mais Joël ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Il veut que le peuple ressente que ça fait mal. Et il dit même, criez à l'Éternel. Ça fait mal, il faut le dire. C'est un désastre, il faut le dire. C'est une catastrophe terrible. Et il faut le dire. Et il le dit, il le cite. Hein. Parfois, on dit, que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Après tout, on est un peu fataliste et on dit, on n'y peut rien, c'est la vie. Des gens meurent et on dit, que voulez-vous? Une catastrophe, un tremblement de terre arrive au Maroc, en Turquie, comme on entend, et puis, ou un tsunami, comme en 2004, c'est ça, je pense. Et on dit, c'est la vie. Enfin, que voulez-vous? C'est les phénomènes, c'est la vie. C'est pas la vie, c'est la mort. Les gens meurent. Hein. Donc, c'est une manière qu'on a parfois de considérer les choses. Et l'homme de Dieu ici, il ne considère pas ce qui se passe dans le monde de cette manière-là. Il dit, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance. Et il reconnaît cette souffrance-là. Et il dit même aux gens, gémissez, sentez-la, mesurez à quel point ça vous a atteint, cette souffrance. Il veut qu'ils le sachent. Il convoque les anciens, les buveurs, les sacrificateurs, et leur demande de ressentir en eux-mêmes la grande souffrance qui est engendrée par la catastrophe. Et la souffrance humaine, les catastrophes, souvent qu'on dit naturelles, sont parfois difficiles à appréhender. Et parfois, elles ont toujours été même l'objet de grandes discussions, même dans le temps passé, même parmi les philosophes. Hein, la souffrance humaine a été souvent l'objet de grandes discussions. J'ai lu dans un commentaire que Voltaire, vous avez entendu parler de Voltaire, hein, en 1755, il y a eu un tremblement de terre qui a, à Lisbonne, tremblement de terre meurtrier qui s'est suivi par des tsunamis et puis par des incendies. D'accord. Il paraît que presque la moitié de la ville a été, les personnes ont péri dans cela. Et c'est ça qui a produit, si vous avez ce qui a produit, qui a fait que Voltaire a produit des poèmes, d'accord, dans lesquels il a, voilà, il a exprimé un peu toute sa pensée, hein, sur le fait que Dieu dirige les choses ou pas, etc., ou agit de manière aveugle. Il était en conflit avec Rousseau là-dessus. Et un autre philosophe, qui disait « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Hein. » Et voilà, toutes ces personnes-là réfléchissaient à partir de la souffrance et essayaient de déconnecter les choses de Dieu en disant « Si c'est Dieu qui a fait ça, alors ce n'est pas la peine. Si un Dieu est bon et s'il est puissant, pourquoi est-ce que de telles choses arrivent encore ?» Et c'est les mêmes questions que l'on se pose encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait plus de 2800 personnes qui périssent dans un tremblement de terre? Alors parfois on peut dire, que voulez-vous? C'est la vie. C'est la vie. Et Joël aurait été là, il aurait dit, sentez, il y a des morts. Vos maisons sont détruites. Il aurait insisté pour faire sentir que c'est une douleur. Parfois, on ressent pas la douleur parce que ça ne nous touche pas directement, hein, n'est-ce pas? Mais il veut que même nous, quand nous lisions ça, nous ressentions que cette invasion de sauterelles a été quelque chose de douloureux et que nous comprenions pourquoi il en a été ainsi. Et souvent, nous, soit on est touché directement et puis on a des réactions qui sont vives, parfois pas bonnes, soit parfois les choses se passent tellement loin qu'on est un peu blasé. Parfois, on est capable de regarder des images de tremblements de terre à la télévision comme si on regardait un film, parfois, de manière un peu blasée, sans que notre cœur ne soit ému. Et surtout en tant que chrétien, sans que notre réflexion soit bonne à propos de l'événement. Et Joël, ici, il veut premièrement que le peuple comprenne que c'est une vraie souffrance. Il n'est pas dans le déni de réalité, mais ce qu'il fait surtout, c'est qu'il veut que l'on apprenne à placer l'événement en rapport avec Dieu. C'est ce qu'il fait ici de manière forte. Et l'une des grandes difficultés que l'on a, c'est de placer les choses toujours en rapport avec Dieu. Même en tant que chrétien, des fois, on peut avoir du mal. Je me souviens, je vous avais dit ça, de ce journaliste qui m'a téléphoné juste en plein Covid, parce qu'il savait que j'étais responsable d'une église et il voulait faire une émission ici, hein, il voulait passer ici, on n'avait pas accepté finalement, bon, mais il m'a posé une des questions. L'une des questions, c'était: est-ce que vous dites que le Covid est un jugement de Dieu? Pas si les gens vous ont posé cette question-là. Et parfois, c'est une question qui nous gêne un peu. Parce que, mais on ne sait pas, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas, etc. Bon, Dieu, il ne veut pas non plus que les gens meurent comme ça. Non, c'est peut-être les hommes aussi, à cause de, voilà, hein, des choses qu'ils ont faites, des manipulations dans un laboratoire quelque part dans le monde, et puis ça a fait un virus qui a échappé. C'est plus, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on a du mal à mettre Dieu à côté de ces choses terribles qui arrivent. Et Joël, c'est ce qu'il fait ici. Il va placer le désastre en rapport avec Dieu ici. Et quelque part, il va faire sentir au peuple que Dieu a une responsabilité dans ce qui s'est passé là. Et qu'on doit bien le comprendre. On doit le comprendre de la bonne manière. De nos jours, on a appris à déconnecter les choses de Dieu. Les événements catastrophiques qui se produisent, on a appris à les déconnecter de Dieu. On parle plus de la responsabilité humaine. J'ai même lu, concernant le tsunami de 2004, quelqu'un qui, après les discussions, etc., et les gens ont dit que si les hommes n'avaient pas fait des choses qui ont détruit les coraux, les ceci, les cela, le tsunami aurait peut-être pu freiner le tsunami. Et il y aurait eu au moins beaucoup, beaucoup moins de morts. Peut-être, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais la raison, c'est de dire, la solution, c'est de dire, c'est à faute des hommes, à cause de leur activité sur la planète, dans la biosphère. C'est comme ça que l'on présente souvent les choses. Et un philosophe a ajouté qu'on ne regarde plus les choses de manière religieuse. Il a dit maintenant c'est fini. On sait maintenant, on a fait des études, des calculs, maintenant c'est plus Dieu, c'est la responsabilité humaine. C'est là qu'il faut travailler pour améliorer les choses. Et Joël ne dit pas, bon, c'est à cause de vous, hein, si vous aviez, fait telle ou telle chose, mis vos champs comme ceci, acheté des pesticides par là, vous auriez eu moins de... Non, tout de suite, il raccroche cela à Dieu et fait sentir à ce peuple qu'il faut qu'il se pose les bonnes questions. C'est comme si Joël disait, Dieu est responsable de ce qui arrive ici. Regardez Joël 2, chapitre 11, ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel fait quoi? Fait entendre sa voix devant son armée. Son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Il dit, l'invasion de sauterelles est vue comme la voix de l'Éternel qui parle. Dieu parle donc à travers cet événement et il ne faut pas le déconnecter, dit Joël. Il ne faut pas déconnecter Dieu et chercher dans la nature ou dans les hommes, même s'il peut avoir des responsabilités, mais il ne faut pas chercher dans la nature ou dans les hommes des réponses. C'est-à-dire, Dieu n'est pas l'auteur du mal, la Bible dit. Hein? Okay. Mais la Bible dit en même temps que le malheur arrive-t-il dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur, il dit. C'est-à-dire, il faut comprendre les choses d'une manière telle que... Comprendre que Dieu utilise les choses pour parler. Et il utilise les événements pour parler. Il décrit aussi l'invasion des sauterelles comme annonçant un jugement à venir. Joël 1,15. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc il dit qu'il y a ici des choses à considérer quand on considère les choses qui arrivent dans la nature. Il ne faut pas juste, en tant que chrétien, enfant de Dieu, avoir une vision purement humaine des choses. Voilà. Ça, c'est climatique, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Il dit, il faut aussi savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Et puis, l'homme n'y prend point garde. Je vais m'arrêter là, mais je crois que c'est dans Chroniques 7, verset 2 Chroniques. On peut regarder ça. Je ne sais pas si c'est bien ce passage que je voulais, mais rapidement. 2 Chroniques, chapitre 7 et au verset 13. C'est ça. Il dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et quand... » Ça, c'est voilà. C'est-à-dire la sécheresse, Dieu dit, « La sécheresse, c'est moi qui l'a fait. » C'est ce qu'il est en train de dire ici, hein. Il dit, « Quand j'ordonnerai au qui ?» À qui ? Aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué son nom, mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. » Donc, il est en train de dire, lorsque vous voyez ces choses arriver, ne sautez pas vite comme les gens du monde qui disent « Ah, mais là, c'est scientifique par là, ah, c'est ceci par là, ah, c'est à cause de l'activité humaine par là. » Certes, ce sont des causes secondaires peut-être, mais il dit, n'oubliez pas, il dit « Je ferme le ciel, il n'y a plus de pluie, j'envoie les sauterelles, pensez que je le fais pour que vous puissiez vous repentir. » Et c'est ça, en gros, le message que donne Joël dans ce livre. Alors, je vais m'arrêter là parce que je veux qu'on prenne quelques minutes pour prier. Mais vous pouvez lire, hein, c'est ce que Jésus dit. C'est la même chose qu'il dit en Luc chapitre 13, lorsque ces gens viennent le voir pour parler de cette tour qui est de Pilate qui avait fait tuer des personnes qui offraient un sacrifice, etc. Et puis Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il parle de l'événement comme de quelque chose qu'il faut regarder comme une interpellation de Dieu lui-même sur notre propre vie, notre propre péché. Donc on reviendra encore là-dessus la semaine, enfin la prochaine fois, je ne sais pas, la semaine prochaine, pour considérer pourquoi est-ce qu'on a du mal avec le problème de la souffrance dans notre vie, le rapport que l'on doit entretenir entre la souffrance et ce que Dieu fait. Et il y a deux choses, je le souligne déjà, c'est notre méconnaissance de notre profonde nature pécheresse et la méconnaissance de la sainteté de Dieu et de sa grâce, vraiment. Ces deux choses sont peu connues, ce qui fait que quand on est en face à la souffrance, on pose des pourquoi et des comment, des révoltes qui, voilà, et on est insatisfait, ou on cherche, quand on est dans le monde, des raisons ailleurs. Mais si on est conscient de la profondeur de notre péché, c'est ce dont il est question ici, parce qu'il est question de repentance. Et si on est conscient de la grâce de Dieu qui aurait pu nous frapper, mais qui ne l'a pas fait, mais qui nous montre que c'est grave, et qu'il y a autre, il y a pire à venir, et qu'entre là et le pire à venir, il nous fait grâce pour nous repentir, si nous ne comprenons pas cela, nous interprétons mal la question du désastre, des catastrophes, des épidémies, des tremblements de terre, de toutes les souffrances que nous pouvons connaître dans notre monde. Voilà, je m'arrête là, ici, pour cette fois.